enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Soyez bénis, bonsoir chers frères et sœurs. Merci de m'accueillir. Je viens devant vous avec crainte et tremblement. Je vais vous en donner la raison. Il m'est arrivé une fois, alors que depuis que je prêche, de ne pas savoir la veille, avant de prêcher, de quoi j'allais prêcher. Et je dois dire qu'en général, Dieu est fidèle, puisque 10 jours, 12 jours, 15 jours avant, déjà il inspire, déjà je prépare. Et cette fois-ci, hier soir, je vous dis honnêtement, j'étais un peu dans l'expectative. Et je disais, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Toi, tu sais ce que ton peuple a besoin de recevoir. C'est bon d'être dépendant du Seigneur, hein. Mais quand Dieu tarde, c'est des fois difficile. Et puis j'avais tard hier soir encore une visite à faire. Et lors de cette visite, alors que je priais pour la personne que je visitais, Dieu a commencé à m'inspirer par rapport à un thème que j'aimerais aborder avec vous ce soir. Et je prendrai avec vous Luc chapitre 15. Il s'agit là d'une histoire que nous connaissons tous relativement bien, puisque c'est la parabole de la brebis égarée. Et le titre de mon message ce soir, c'est 100% pour Jésus. 100% pour Jésus. Amen. Nous chantions tout à l'heure que, eh bien, nous comptions sur le Seigneur. Si nous comptons réellement sur le Seigneur, alors nous devons, eh bien, à 100% avancer avec lui. Lisons ensemble Luc chapitre 15, versets 1 à 7, il est dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Si dans l'histoire il me fallait effacer un verset, si on avait la capacité d'effacer des bouts d'histoire qu'on peut lire, certainement c'est du verset 2 qu'il s'agirait. Et il est dit au verset 3, mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jusqu'ici. Si l'on reste dans le contexte de l'histoire de cette brebis, vous voyez que les histoires de ce chapitre 15 du livre de Luc nous racontent, eh bien, ce principe qui dit que ce que nous perdons, nous pouvons le retrouver. Il s'agit, pour l'histoire que nous venons de lire, de cette brebis qui était perdue. Il s'agit ensuite, dans l'histoire suivante, de cette femme qui a perdu j'actualiserai en disant son euro et qu'il a retrouvé. Et puis il s'agit, à la fin de ce chapitre 15, de ce fils prodigue qui a été perdu par le père parce que décidant de dilapider l'héritage du père et qui a été, heureusement, bien s'en faut-il, retrouvé par le père. Ce qui est perdu peut être retrouvé et j'imagine que chacun d'entre nous, il nous est arrivé de paniquer pour avoir perdu quelque chose. J'ai cru entendre dernièrement que Jean-Marie avait perdu sa carte bleue. L'avez-vous retrouvée? Dans une casserole. Jean-Marie cache sa carte bleue dans une casserole pour être sûr que son épouse ne la trouve pas. Ah, je le trouve très malin. Il m'est arrivé, je vous l'avais déjà raconté lors de la colo de l'année dernière, de perdre les clés de ma camionnette. Plusieurs ont entendu cette histoire. Et le thème de la colonie était des clés pour être heureux. Je me rappelle de la première colo que j'avais eu l'occasion de faire, le thème était au fil de l'eau. Et nous avions 14 jours de pluie. J'ai l'impression que finalement les thèmes sont très bien imagés. Et je pense que cette année je vais traiter en particulier le retour de Jésus. Hein. Amen. Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Il me semblait que vous aviez l'air plutôt attristé par ce thème. Ce qui est perdu peut être retrouvé. Mais lorsque nous lisons ce texte, eh bien nous parlons là, ou nous voyons là qu'il s'agit de scribes et de pharisiens qui étaient en train de mépriser. De scribes et de pharisiens qui étaient là, méprisant, eh bien, les personnes de mauvaise vie que pourtant Jésus aimait à accueillir. C'est là le contexte de la parabole de la brebis qui était égarée. Jésus aimait à être aux côtés de gens de mauvaise vie, de gens perdus, qu'il aimait à chercher, qu'il aimait à accueillir, leur montrant par là qu'il les aimait, afin qu'ils puissent changer de vie. Mais les scribes et les pharisiens, eux, les méprisaient. Pourquoi ? Parce que simplement, cela bouleversait leurs traditions, leurs habitudes. J'aimerais, dans la première partie de mon message, parler de ce Jésus qui accueille les gens de mauvaise vie. Il est 100% proche des gens. J'aimerais ensuite parler de ce Jésus qui a cherché la brebis perdue. Il est 100% celui qui veut sauver. Et j'aimerais ensuite terminer sur la base de cette histoire que nous avons lue sur la conséquence du salut. Nous sommes 100% joyeux. Premièrement, Jésus est venu 100% sauver et accueillir ceux qui sont des gens de mauvaise vie. Et lorsque vous lisez cette histoire, eh bien, je le disais tout à l'heure, ces gens étaient méprisés par une catégorie de personnes qui s'appelaient les scribes et les pharisiens. J'en reviendrai tout à l'heure. Voyez-vous, dernièrement, dans les visites que je faisais, je réalisais combien de personnes étaient blessées et en souffrance parce qu'ayant été dans leur vie méprisées. Et parce que ces personnes avaient été méprisées, elles reproduisaient elles-mêmes, parce que non guéries, des choses qui étaient difficiles à vivre. Je lisais l'autre jour, lorsque je revenais d'Algérie, un journal qui parlait d'une femme qui avait été séquestrée par son père et qui était torturée. Je ne rentrerai évidemment pas dans les détails, mais elle avait accouché de son père de 6 enfants. Dernièrement, aux informations, nous avions entendu parler d'une telle histoire. Combien, aux côtés de nous, pouvons-nous, eh bien, entourer ou côtoyer des gens qui ont été méprisés? Et parce qu'ils ont été méprisés, ont été blessés. Certainement, plusieurs d'entre vous ont été, un jour ou l'autre, méprisés. Nous sommes allés, ce week-end, démarrer l'œuvre de Quartier Libre à Reims, où se trouve Johanna. Et j'ai été très réjoui. Merci d'ailleurs pour tous ceux et celles qui s'en sont rappelés, qui ont eu l'occasion de prier pour cela. Dieu a béni. Il a béni d'abord par le temps qu'il nous a donné. Et puis vous savez, quand vous commencez un quartier, que vous arrivez dans le quartier, vous vous posez toujours la question de savoir si les enfants et les familles viendront au rendez-vous. Il y avait, je dois dire, nous avons été bénis au-delà de nos espérances, puisque plus de 120 enfants sont venus et une trentaine de parents ont assisté. Et nous avons déjà pu commencer à entendre des parents qui confessaient ce qu'ils vivaient dans leur famille, dans leur entourage, combien ils avaient été méprisés. Et je me suis dit, Seigneur, merci, parce que ce travail nous permet d'emmener les méprisés auprès de celui qui aujourd'hui encore veut les accueillir et qui a une solution pour eux. Amen. Je faisais le bricolage avec un petit garçon qui devait avoir 4 ans, 5 ans. C'était un crayon. Et je lui dis à la fin du bricolage, ben demain, tu emmèneras ton crayon à ton papa ou ce soir pour qu'il puisse te le tailler. Et le petit enfant Théo de se tourner les regards vers moi et de me dire, mais j'ai pas de papa. Je me rappelle de l'histoire de cet enfant également, qui, c'était une jeune fille, lorsqu'elle est rentrée chez elle, eh bien, s'est précipitée au cou de sa maman pour lui dire qu'elle l'aimait. Et sa maman de choisir ce jour pour lui dire qu'elle voulait quitter le foyer et se séparer de sa fille, lui disant qu'elle ne l'aimait pas. Je me rappelle également de cet enfant qui, alors que c'était la période de la fête des pères, avait écrit un courrier à son père en lui faisant un dessin et en écrivant un poème, lui disant sur ce dessin qu'il aimait son père. Et ce père, qui était séparé de sa mère depuis quelque temps déjà, lui renvoie ce courrier avec le dessin déchiré en 1000 morceaux. Combien de personnes sont méprisées? Mais Jésus est là parce que de la même manière qu'il a accueilli toutes ces personnes qui, dans ce texte, ont été méprisées parce qu'ils sont des gens de mauvaise vie, combien de personnes Jésus veut-il aujourd'hui accueillir qui elles-mêmes ont été méprisées, sont en souffrance? Amen. Je cherchais dans le livre de Jean quelques personnes qui avaient, subi ce mépris. J'en ai trouvé 3. Le livre de Jean, Jean veut dire qui donne, le don de Dieu. Et je crois qu'au travers de ces quelques histoires, Dieu veut nous montrer que lui ne méprise personne, mais qu'au contraire, il s'est donné à nous afin que, blessés par les mépris que nous avons pu vivre, il puisse nous accorder sa guérison. J'y trouvais d'abord Jean chapitre 4, l'histoire de cette Samaritaine. Cette Samaritaine en quête d'amour au masculin, qui cherchait à être aimée en essayant de trouver, des personnes capables de l'aimer. D'ailleurs, cette femme, est-il dit dans ce texte, était mariée, et cela a été révélé par Jésus, mariée à 5 hommes, et l'homme avec qui elle vivait, elle n'était pas mariée avec lui. Cette femme était malheureuse, premièrement parce que peut-être elle a été méprisée par le fait qu'elle était samaritaine. Et les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Les Juifs devaient passer par la Samarie et rencontraient peut-être plusieurs fois cette Samaritaine et la regardaient d'un air dédaigneux. Cette femme se sentait peut-être aussi méprisée parce que, se trouvant là devant le puits de Jacob, Jacob veut dire usurpateur, peut-être s'est-elle rappelée de l'histoire de Jacob qui était effectivement un usurpateur. Et savait-elle, par rapport à Dieu, que la vie qu'elle menait usurpait les commandements de Dieu? Sa conscience peut-être la travaillait, d'autant plus qu'elle semblait vivre dans sa vie une certaine malédiction. Ses maris mouraient ou partaient l'un après l'autre. J'avais déjà raconté cette histoire, je la raconte peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. J'essayais d'imaginer la rencontre de cette femme avec ce 6e homme. Voilà qu'elle se trouve sur le chemin, sur un des chemins en Samarie. Peut-être, comme d'habitude, allait-elle puiser de l'eau au puits de Sichar. Et voilà qu'elle tombe sur ce chemin sur un homme qui la croise et qui croise son regard. C'est le coup de foudre. Puis voilà que l'homme l'invite au restaurant. En général, c'est les hommes qui invitent au restaurant. Pas beaucoup d'hommes qui disent « Amen », hein. Et voilà qu'en tête à tête, au restaurant avec cette femme, cet homme veut en connaître plus d'elle. Et j'ai essayé de m'imaginer, puisque j'ai l'imagination assez fertile, hein, que cet homme avait préparé peut-être déjà la bague de fiançailles pour la lui offrir. Mais quand même, avant d'offrir une bague de fiançailles, on se renseigne sur celle avec qui on veut faire sa vie, n'est-ce pas? Même si c'est issu d'un coup de foudre. Et puis voilà qu'il s'apprête à sortir la boîte dans laquelle se trouve la bague et qu'il pose la question à cette femme, lui demandant si elle était déjà mariée. C'était la question à pas poser, hein. Et la femme de le regarder en disant oui, une première fois. Ah bon? Et qu'est-il arrivé à ton mari? Ben, il est mort. Alors lui, bien sûr, rempli de compassion, toutes mes condoléances, hein. Et puis, j'étais marié une deuxième fois. Et qu'en est-il de ton deuxième mari? Il est mort. Et puis le troisième. Et le quatrième. Puis au bout du cinquième, le pauvre gars, il a remballé sa bague, hein. Il s'est dit, moi, je veux pas être le 6e de la liste, hein. Et cette femme, peut-être par rapport à ce qu'elle vivait, sentait qu'il y avait dans sa vie peut-être même comme un mépris de Dieu à son égard, parce qu'une malédiction reposant sur sa vie. Mais alors qu'elle était en train de tirer de l'eau de ce puits, et qu'elle regardait son image dans l'eau de ce seau qui était rempli d'eau, d'un coup elle voit un deuxième visage qui apparaît, celui de Jésus. Il avait l'air tellement paisible. Un visage reflétant non pas l'accusation, mais la grâce de l'Éternel. Et puis elle se retourne vers lui et Jésus de lui dire, « Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, non seulement tu n'auras plus soif, mais cette eau jaillira de l'intérieur de toi jusque dans l'éternité. » Amen. Et la suite de l'histoire nous dit que les disciples sont revenus après avoir fait quelques courses au casino du coin. Et puis il est dit que les disciples étaient étonnés, bien que ne disant rien à Jésus, étaient étonnés que Jésus parlait à cette femme, qui plus est, était samaritaine. Alors peut-être que les scribes et les pharisiens n'étaient alors pas physiquement présents, mais j'ai l'impression que dans le cœur des disciples de Jésus, il y avait un esprit de scribes et de pharisiens. Jésus était là pour accueillir cette femme qui a été méprisée et pour lui proposer une solution. Et puis Jean chapitre 5, il y a l'histoire de ce paralytique qui était devant cette piscine depuis 38 ans. Ça faisait 38 ans qu'il avait pris un abonnement pour entrer à la piscine de Bethesda. Et voilà que ce paralytique, chaque fois que l'eau bougeait, il est dit que la première personne qui se trouvait dans l'eau était guérie. Alors évidemment, pourquoi ce paralytique se trouvait devant la piscine? Eh bien ça, parce qu'il avait toujours cette espérance de pouvoir se précipiter plus rapidement que les autres et d'être guéri. C'est ce qu'il désirait et c'est légitime. Mais peut-être qu'avant lui, il y avait des boiteux qui clochaient d'un pied, qui pouvaient aller plus vite que lui. Peut-être y avait-il des sourds ou des muets qui, en sautant dans l'eau, étaient guéris. Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que personne ne lui a un jour proposé, alors qu'il était là depuis 38 années, de le prendre et de le jeter dans l'eau. Alors Jésus est arrivé. Il est venu auprès de lui et lui a dit, « Veux-tu ? Veux-tu marcher ? Veux-tu être guéri ?» Jésus a eu compassion de lui, il a eu pitié de lui. Jésus s'est proposé à lui. Évidemment, ce paralysé lui a dit oui. Alors qu'a-t-il dit? Il a dit, bien, prends ton lit et marche. Et ce paralytique a été guéri. Amen. Jésus est celui qui désire une proximité avec ceux qui sont souffrants, ceux qui sont des gens de mauvaise vie. Il cherche une proximité. Et voyez-vous, moi, quand je lis la suite de cette histoire, j'ai envie de me mettre en colère. Ces scribes et ces pharisiens, de nouveau là. De nouveau là pour dire, mais Jésus, pourquoi tu fais cela le jour du sabbat? C'est triste. Ils auraient pu se réjouir que Jésus ait guéri cet homme. Mais ils étaient mécontents et eux-mêmes, ils méprisaient Jésus et ce que faisait Jésus. La troisième histoire se trouve dans Jean au chapitre 8. Il s'agit là de la femme adultère. Cette femme qui était, eh bien, poursuivie justement et comme par hasard par des scribes et des pharisiens. Et voilà que ces hommes qu'il avait, eh bien, pris en flagrant délit d'adultère. La femme, pas l'homme, hein. C'est à cause de la femme. Voilà qu'il l'amène devant Jésus. Et qu'ils le mettent devant un ultimatum, lui disant, ben, la loi de Moïse nous dit, en fonction de ce qu'elle a fait, qu'il nous faut la lapider. Toi, que dit-il qu'il faut faire? Jésus, rempli de grâce, a commencé à se baisser et à écrire au sol. Peut-être a-t-il écrit d'abord pour ceux qui étaient les plus âgés ou les plus aînés des scribes qui étaient là, ou des pharisiens qui étaient là. Peut-être a-t-il écrit, toi, le scribe, qui est à ma droite, rappelle-toi, il y a 25 ans de cela. Alors que tu accuses cette femme et que tu te prépares à lui jeter la pierre, rappelle-toi, toi-même, tu as trompé ta femme. Ce vieux scribe, tout moche, plein de rides. Alors, je ne dis pas que les vieux sont tous moches. Hein. Regardez, papa Jean, il est tellement beau avec ses cheveux blancs. Pourquoi je dis qu'ils sont moches? Simplement parce qu'ils ont été marqués par leur légalisme. Ils ont été marqués et ridés par leur légalisme. Est-ce que vous avez déjà vu des gens légalistes vieillir? Regardez un peu leur visage. Ils ont un visage tellement dur. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est critiquer. Alors je ne crois pas me tromper quand je dis que ces scribes, c'était des moches. Parce que tout ce qu'ils savaient faire, c'était endurcir leur visage par la critique. Et Jésus s'est levé, après avoir inscrit quelques douces accusations à leur égard. Et Jésus de leur dire très intelligemment que celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre. Et puis il se baisse et il continue à écrire, peut-être pour les plus jeunes, qui eux pensaient qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de pécher, et à qui Jésus marquait leur péché sur la terre, sur le sol. Et tous sont partis. Et Jésus de regarder cette femme et de lui dire, n'y a-t-il personne qui reste pour te lapider? Et Jésus, pour montrer qu'il n'est pas d'accord évidemment de côtoyer le péché, parce qu'il méprise le péché, mais non pas le pécheur, dit à cette femme, va et ne pêche plus. Jésus aimait la proximité des gens de mauvaise vie. Jésus aimait les accueillir. Jésus, malgré les difficultés qu'il rencontrait face à ces fichus scribes et pharisiens qui le suivaient, partout il allait, prêt à l'accuser tout le temps et tout le temps, aimait malgré cela à se trouver auprès des gens qui avaient besoin de lui. Et il avait toujours et toujours encore une solution à leur proposer. Deuxième point, la brebis perdue, le salut et l'héritage de ses promesses à 100%. Dans cette histoire, il est parlé de 99 brebis et d'une qui était égarée. 99%, c'est le chiffre de l'imperfection, comme 20% ou 30% ou 50% ou 70%. Le seul chiffre de la perfection, c'est 100%. Lorsque je vous dis ou que je vous fais une promesse et que je vous dis face à cette promesse, eh bien, je te promets qu'à 99%, je l'accomplirai. Vous n'êtes quand même pas sûr que je vais l'accomplir. 99%, c'est le chiffre, je dirais, de l'inquiétude ou du doute de ce qui n'est pas sûr d'arriver. Voyez-vous, il y a des choses ce soir pour lesquelles vous n'êtes pas tout à fait sûr. Allez, sans prendre de risques. Je dirais que personne n'est sûr demain matin d'être encore vivant. D'accord? Vous avez peut-être 99,99% d'être encore là. Mais moi, je ne peux pas dire à 100% que demain matin, vous serez encore là. Êtes-vous d'accord avec cela? Mais pour ceux qui s'en prennent, ne vous inquiétez pas. Et puis, il y a des certitudes. Une autre certitude, et ça, j'en suis sûr à 100%. Et là aussi, je ne veux pas prendre de risques, mais je dirais que dans, 150 ans, plus personne ici ne sera vivant. Je n'osais pas dire 100 ans, parce que je me suis dit, si quelques-uns veulent suivre Jeanne Calment dans son pèlerinage. Mais ça, c'est sûr. Il y a des choses desquelles nous sommes certains, nous pouvons l'affirmer. Et il y a des choses qui peuvent évidemment nous inquiéter. Moi, il y a aussi une chose de laquelle je ne suis pas sûr. Je vais vous dire de quoi? De moi-même. Je ne suis pas sûr de moi-même. Je suis constamment obligé de me surveiller. Et finalement, je suis tel Paul qui de temps en temps disait, mais je fais pas le bien que je voulais faire. Dans le livre des Romains. Et le mal que je m'étais décidé, promis à ne pas faire, je comprends pas, je l'ai fait. Pourtant que je l'avais promis. Je m'étais engagé. Je m'étais mis devant Dieu, j'avais prié Dieu aide-moi. Je comprends pas. J'ai fait exactement le contraire de ce que je voulais pas faire. Je suis pas sûr à 100% de moi-même. Et si je peux dire cela, je peux également dire qu'à plus juste raison, il me faut m'approcher à 100% de ce Jésus qui, lui, est tellement sûr. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont certaines et qu'on peut affirmer. Matthieu chapitre 9, verset 27, il est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, je le disais tout à l'heure, après quoi vient le jugement ?» De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et je me réjouis de ce que ça, ce soit sûr. Une autre chose qui est sûre, c'est lorsque Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est sûr. Quand nous venons à lui avec foi, il nous donne toujours du repos. Une autre chose qui est sûre, c'est Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Samuel parlait tout à l'heure en introduction de ce monde qui s'inquiète et peut-être à juste raison pour différentes causes. Tout qui monte, sauf les salaires. Mais ne nous inquiétons pas. Parce que lorsque nous nous approchons de ce Jésus qui cherche cette proximité avec nous, alors il prendra toujours soin de nous. Toujours. Il n'y a pas une fois où je peux dire que Jésus n'a pas pris soin de moi. Amen. Il a toujours pris soin de moi. Et savez-vous pourquoi il a toujours pris soin de moi? Parce que si moi je n'ai pas toujours été à 100% pour Jésus, lui, en tout cas, m'a toujours aimé à 100%. Jésus n'a pas arrêté son ministère à 50% ou accompli son ministère à 50%. Peut-être aurait-il pu s'arrêter au puits de Jacob, auprès de la Samaritaine, et dire finalement, moi je suis juif, et comme tous les juifs, eh bien je ne supporte pas les Samaritains. Donc je m'arrête dans mon ministère, je la rencontre elle, mon histoire s'arrête là. Non, il voulait lui apporter du secours. Peut-être aurait-il pu s'arrêter à 80% de son ministère lorsqu'il a vu Judas mettre sa main dans la caisse pour retirer de l'argent. Il aurait pu dire si c'est comme ça, alors que je l'ai formé, il a été mon disciple, voilà qu'il se met à voler dans la caisse, moi je retourne vers mon père. Il aurait pu s'arrêter à 90% au jardin de Gethsémané. Il aurait pu dire, mais finalement... Cette coupe qui m'est proposée, je la refuse. J'ai pas envie. Je réalise, il y a trop de souffrance pour des gens qui, finalement, ne le méritent pas. Il aurait pu s'arrêter. S'arrêter à 95%. Quand Pierre l'a trahi, l'a renié. Il aurait pu dire, mais si c'est comme ça, un homme que j'ai aimé, que j'ai formé, il m'a renié, il m'a méprisé. Il aurait pu s'arrêter à 99%. Alors qu'étant sur la croix, le soldat lui a dit, mais si tu es Dieu, si tu es qui tu dis, si tu es aussi puissant que tu le fais croire aux autres, alors descends de ta croix. Il aurait pu descendre de sa croix, mais il n'aurait pas accompli son ministère à 100%. Il n'aurait pas accompli 100% de l'œuvre que Dieu lui envoyait accomplir. Il aurait pu arrêter à 99,99%. Lorsque sur la croix, juste avant d'expirer, Dieu a dû l'abandonner parce qu'il a porté nos péchés, il a porté nos mépris en étant lui-même méprisé. Mais il n'aurait pas accompli à 100% l'œuvre que Dieu lui demandait d'accomplir. Jésus a accepté d'aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il veut sauver, toucher chacun d'entre nous. Parce que son salut est parfait. Et si nous mettons 100% de notre foi en ce 100% Jésus qui a été parfait, alors nous hériterons de 100% des promesses qu'il a pour nous. Amen. Alors l'héritage nous appartiendra. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, il est dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ». En lui, nous sommes devenus héritiers. Lorsque nous restons dans la présence de Dieu, alors nous sommes héritiers de ses promesses. Amen. J'aime l'histoire de cet homme très riche. Il avait un fils qu'il aimait beaucoup. Et il avait fait de lui un tableau qu'il avait accroché au mur. Malheureusement, peu de temps après, son fils est mort. C'était son fils unique. Et parmi ses serviteurs, l'un d'eux l'aimait particulièrement également. Il faisait tout ce qu'il pouvait alors que le fils était encore vivant pour l'aider, pour lui montrer qu'il l'aimait, il le servait. Mais voilà que quelques mois plus tard, le père meurt lui aussi. Et alors, il fait réunir par son notaire l'ensemble de ses serviteurs à qui il voulait léguer sa fortune. Et voilà que se trouvait dans cette pièce l'ensemble des serviteurs et ce tableau, le tableau de ce fils. Et le notaire de dire, voilà, premier héritage, c'est ce tableau, le tableau du fils. Qui voudrait le recevoir? Et l'ensemble des serviteurs de regarder ce tableau avec mépris, avec dédain. Et ce fils qui aimait, ce serviteur qui aimait ce fils, de dire, moi je veux ce tableau. Et voilà qu'il se précipite en avant, qu'il prend le tableau et le serre contre lui, se rappelant les bons souvenirs avec ce fils. Et par là même également avec le père. Et voilà que cet homme, ce serviteur, retourne à sa place. Et le notaire d'ouvrir alors une enveloppe et de lire les dernières volontés de cet homme riche. Et voici ce qu'il lit sur ce courrier qui avait été fait. Celui de mes serviteurs qui acceptera d'hériter du tableau de mon fils héritera de toute ma fortune. Amen. Lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous aimons son fils, lorsque nous avons hérité de la chose la plus merveilleuse qui puisse exister, à savoir sa grâce en nous, alors nous héritons de tout l'héritage que Dieu nous accorde, puisque nous sommes héritiers, co-héritiers en Jésus-Christ. Amen. L'histoire de Luc 15, de ce fils prodigue, qui lui a voulu prendre l'héritage et profiter de l'héritage de son père. Mais voyez-vous le problème, c'est qu'il a voulu l'héritage, mais qu'il n'a pas voulu rester à proximité de son père. Combien ont reçu des héritages merveilleux de la part de Dieu, des guérisons, le salut, tant d'autres choses. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu rester auprès du Père, ont vu leur héritage être volé, dépensé, dilapidé, dérobé. Alors que le fils aîné, qui lui était resté à la maison, et qui n'était pas content du retour du fils prodigue, regardez ce que le Père dira. Le Père lui dira ceci. Toi, tu pouvais profiter de tout ce que j'avais. Pourquoi ? Parce que tu étais avec moi. Et à partir du moment où tu étais avec moi, ce que j'ai t'appartenait. Amen. Lorsque nous restons dans la présence de Jésus, lorsque nous restons attachés à lui, lorsque nous lui restons fidèles à lui qui, à 100%, est allé jusqu'au bout de l'œuvre que Dieu lui avait demandé de mener, alors nous sommes tributaire de lui et nous recevons 100% de l'héritage qu'il nous promet. Amen. Troisième point, les conséquences, la joie que Dieu nous donne. Lorsque vous lisez ce texte, il y a quatre directions de joie. La première, c'est la brebis sauvée, la brebis recherchée qui se réjouit. Quelle joie lorsque nous avons été sauvés. Amen. Vous rappelez-vous du jour où Dieu vous a touché? Je vous l'ai bien souvent raconté, mais lorsque moi-même, dans ce lieu, je me rappelle où j'étais assis, au fond de la salle, sur la droite, là-bas. Je me rappelle exactement des mots que Sam avait reçus. Voici, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, je viendrai, je rentrerai avec toi. Tu vivras cette proximité avec moi. Et je ne me suis pas levé, je ne me suis même pas avancé. J'avais trop peur. Mais j'ai dit, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et là, j'ai senti une telle présence de Dieu. Je suis rentré à la maison, j'ai secoué ma femme qui dormait. Et je chantais dans le lit alors qu'elle dormait. Finalement, elle n'a pas dormi longtemps. Hein. Surtout avec la voix que j'avais. Quelle joie lorsque nous sommes sauvés. Et cette joie dont nous remplit le bon berger qui est venu nous chercher, qui désire cette proximité avec lui, cette joie n'est jamais repartie. Elle reste la même, voire elle grandit au fur et à mesure que je m'approche de Jésus. Parce que le connaissant davantage en m'approchant de lui, je découvre toujours plus combien il m'aime. Amen. La deuxième joie, c'est la personne qui est utilisée par Dieu pour chercher la brebis perdue. Il est dit dans le verset 5, « Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. » Depuis combien de temps ne vous êtes-vous plus réjouis d'avoir emmené quelqu'un ici et de l'avoir vu se donner au Seigneur? Quelle joie! Je dois dire qu'après la joie du salut, c'est la plus grande joie qu'un chrétien puisse connaître. La joie de voir quelqu'un que vous amenez à proximité de Jésus, être touché par Jésus. Quelle joie! Moi, ça déborde comme un fleuve jaillissant. Lorsque Dieu me donne l'occasion d'amener quelqu'un qui se donne au Seigneur, mais quelle joie! Êtes-vous prêt à vous donner à 100% pour que d'autres puissent venir et le rencontrer? J'aime l'histoire vraie de cette petite fille, 8 ans. Elle était malade à la mort. Sa maman était croyante, mais son père était très fermé et refusait d'aller à l'église. Et alors que sa fille souffrait et savait qu'elle pouvait mourir, sa maman vient la voir et lui dit, « Mais il faut que tu te battes pour vivre. » Et nous prierons encore pour toi afin que Dieu fasse un miracle. Et la petite fille de regarder sa maman et de dire à sa maman, non maman, je veux pas que tu pries pour moi. Je me battrai pas pour m'en sortir. La maman était surprise. Elle dit à sa petite fille, pourquoi ne veux-tu pas te battre? Pourquoi ne veux-tu pas que Jésus intervienne dans ta vie face à ta maladie? Et la petite fille de lui dire, mais maman, je sais si je meurs, je vais auprès de Jésus. Et je sais qu'à mon enterrement, mon papa, qui est tellement dur, viendra à la cérémonie. Et ce sera pour lui le seul moyen d'entendre l'évangile qui peut le toucher. Et alors cette petite fille est décédée, offrant sa vie. Et effectivement, son papa est venu à l'enterrement. Et effectivement, quand il a entendu le témoignage de ce pasteur à qui, eh bien, l'histoire avait été racontée, ce père a été fondu en larmes, a été touché et rempli de la joie du salut. Amen. Sommes-nous à 100% prêts à nous donner afin que des âmes soient touchées, sachant que chacune d'entre elles sont tellement importantes aux yeux du Seigneur. Et puis l'Église se réjouit des sauvés. Il est dit au verset 6, de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Savez-vous que l'Église a la capacité de hâter le retour de Jésus? Parce que quand le nombre des sauvés sera rentré, Jésus reviendra. Moi, ça me motive. Moi, ça me motive pour gagner des perdus. Ça me motive pour les perdus qui sont sauvés et sont heureux de l'être, mais ça me motive aussi parce que à chaque perdu qui trouve la joie du Seigneur, il y a cette voix intérieure qui me dit, ça y est, nous sommes encore plus près du retour de Jésus. Alléluia. Soyez motivés par cela. Moi, je l'attends tellement, ce retour de Jésus. Je me dis, Seigneur, mais je suis tellement, tellement heureux le jour où tu reviendras. Parce que si, d'une certaine manière, ici sur terre, j'ai eu cette proximité avec toi, je sais que quand je serai là-haut, je serai avec celui en qui j'ai cru. Hâtons le retour de Jésus, mes bien-aimés. Et enfin, cette dernière joie, le ciel se réjouit. Il est dit au verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Je ne sais pas comment vous vous imaginez Dieu, Jésus, lorsqu'un homme, une femme, un enfant sont sauvés, lorsqu'une famille est sauvée. Imaginez un instant Dieu assis sur son trône. Allez, je vais essayer de faire Dieu, bien que je n'en sois pas digne. Voilà. Et puis Jésus à sa droite. Imaginez que l'histoire se passe, allez, 25 ans, 30 ans en arrière. Imaginez Dieu discutant avec Jésus. Dieu parle à Jésus. Il lui dit, Jésus, tu as vu ce jeune homme-là sur terre, qui s'appelle Samuel ? C'est incroyable, hein ? C'est incroyable toutes les bêtises qu'il est en train de faire. Puis Jésus, assis à la droite du Père, de dire, oui, papa, je sais, c'est terrible, hein ? Puis j'ai vu hier, un ange est venu me dire qu'il a nouveau embêté son frère Daniel, puis sa sœur Karine. Il y a 25 ans, je te connaissais pas encore, Sam. Et puis voilà qu'ils discutent. Et Jésus, d'en tirer la conclusion, ben finalement, je vais envoyer quelques anges en plus, hein, pour lui parler. Pour qu'enfin il soit brave et qu'il fasse moins de bêtises. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Hein. Mais il fait de saintes bêtises aujourd'hui. Hein. Et puis voilà que Samuel, ayant entendu la bonne nouvelle de l'évangile de plusieurs manières, enfin se repent du mal qu'il a fait. Il demande pardon à son frère, à sa sœur. Et puis Dieu, Jésus qui voit ça, comment croyez-vous qu'ils aient réagi après s'être donné tant de peine? Croyez-vous qu'ils esquissent juste un petit sourire du coin des lèvres? Non! Jésus se lève et puis il se précipite dans les bras de son Père et il le serre, il se jette dans ses bras et il dit « ça y est papa, je sais aujourd'hui que pour lui aussi je ne suis pas mort en vain et que le 100% de l'œuvre que j'ai accomplie pour lui, il l'a reçu aujourd'hui. » Et alors c'est la joie dans le ciel. Les anges qui avaient tellement transpiré avec Samuel se réjouissent et chantent, ils dansent ensemble. Amen. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous. C'est comme ça pour chacun d'entre nous. Et chaque fois qu'un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Je crois que c'est encore pas demain que je serai augmenté, hein. J'aimerais terminer en lisant ce verset 7 du chapitre 15 de Luc. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Pouvons-nous permettre au ciel de se réjouir en cherchant ceux qui, rejetés, méprisés, gens de mauvaise vie, abandonnés, ont tellement besoin d'être amenés à celui qui veut les accueillir et qui s'est donné à 100% pour eux. Et alors, non seulement nous nous réjouirons, nous, non seulement une personne se réjouira, non seulement l'Église se réjouira, mais le ciel tout entier sera dans la joie et nous hâterons l'avènement de Jésus. Amen. Fermons nos yeux un instant, si vous voulez bien.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.